L'Évangile pour le couple.
L'Évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous. Nous voici aujourd'hui dans une émission sur les charismes de l'homme, puisque nous avons parlé des charismes de la femme jusqu'à présent. Et nous allons repartir, comme pour la femme, des conséquences de la chute chez l'homme. Alex, tu peux nous lire ce passage de Genèse 3.
Alors, après la chute, donc Dieu discute avec Adam et Ève et constate les conséquences du péché. Et comme souvent c'est dit que c'est une malédiction, c'est pas une malédiction de Dieu sur l'homme et sur la femme, c'est-à-dire ben voilà la conséquence de l'expérience du péché. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, le sol sera maudit à cause de toi. Il t'en coûtera pour tirer du sol ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te donnera épines et chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière.
Voilà, alors à nouveau, comme nous avions déjà vu pour les femmes, Adam est touché dans toutes ses dimensions, de fils de Dieu, d'époux, de père, de frère spirituel avec sa femme. Et il est touché aussi dans sa relation à la création. Donc,
et au travail.
Et au travail, donc dans ce labeur qui est une des caractéristiques de l'homme et dont nous allons amplement reparler. Et c'est effectivement dans toutes ces dimensions masculines que les hommes et de l'Ancien Testament et du Nouveau vont nous guider vers cette réappropriation de la dignité de l'homme, qui, comme nous disions, est un appel de génération en génération à ne pas à relever la tête, si je puis dire, de cet héritage de ce péché.
Voilà, et c'est tout le sens, je dirais, de l'histoire de la révélation dès l'ancienne alliance, où Dieu va, de manière pédagogique, réappendre au peuple de Dieu, à l'homme et à la femme, à redevenir hommes et femmes, tels qu'il l'a dessiné depuis les origines. Et donc c'est tout ce réapprentissage, et c'est tout le sens de l'histoire de Dieu avec l'humanité, où nous évoquions, dès la chute, Dieu se promène dans le jardin et cherche Adam et Ève, et dit, où es-tu Adam? Où es-tu Adam? Et donc c'est, où es-tu? Où est la grâce qui est la tienne? Pourquoi as-tu quitté la bénédiction que j'avais mis dans ton cœur? Et nous avons souligné combien les pères de l'Église ont décrit de manière un peu anthropologique la double nature qui habite en nous, cette nature bénie, originelle, éternelle, qui est inscrite dans l'homme et dans la femme, et puis cette nature déchue avec l'expérience du péché qui voile cette première nature. Et donc, En revisitant, Maud, comme nous allons faire durant ces deux émissions, toute une série de figures, hautes figures des hommes dans l'Ancienne Alliance, mais aussi dans la Nouvelle Alliance, nous allons, je dirais, accueillir comme par touche cette reconstruction de l'homme pour qu'il soit homme, comme nous l'avons fait, cette reconstruction de la femme pour qu'elle soit pleinement femme.
C'est en regardant chaque personnage aussi que nous éclairons ce qu'est la masculinité en tant que telle. Par exemple, pour Adam, le père de toute l'humanité, le terreux, donc le glaiseux, celui qui vient du sol, il avait donc comme vocation première de soumettre la terre, et de s'en servir pour qu'il puisse croître et multiplier, comme dit la parole. C'est-à-dire que son travail soit au service de son existence et de celle de sa famille. C'est donc la dimension, je dirais, laborieuse de l'homme et très importante dans sa constitution même.
Et puis, chose importante que souligne déjà la Genèse, c'est que c'est Adam qui vraiment quitte son père et sa mère, et donc qui aide aussi son épouse à quitter pour justement prendre cette liberté en tant qu'enfant de Dieu pour former ce couple.
Voilà, on voit que c'est aussi l'homme qui est dans une, je dirais, un rôle de décision visionnaire par rapport à sa famille, et c'est lui qui quitte, c'est lui qui part, c'est lui qui j'irais, est le moteur de cette évolution. Il a aussi une exigence qui est celle de maintenir sa croissance intérieure. Cultiver son jardin, c'est effectivement soumettre la terre, mais c'est aussi soumettre la terre de son jardin intérieur. Donc, dès le départ, il est appelé à développer aussi son intériorité et sa vie spirituelle, mais on sait bien que sur ce registre-là, il faut parfois l'aide de la femme.
Et puis, il y a vraiment ce charisme, je dirais, au travers d'Adam, mais bien sûr qui rejoint aussi celle des femmes, on le voit bien dans notre période aujourd'hui. C'est l'importance, je dirais, du travail, de s'engager. Et en tant que chrétien, c'est quelque chose qui est fondamental. Et d'ailleurs, Paul le reprendra, et même au niveau de tout son ministère, Dieu sait si jamais il a été apôtre des nations, dans les Actes au chapitre 20, Paul témoigne « Je n'ai attendu de personne, argent, or ou vêtements, voyez mes mains, vous savez qu'elles ont assuré le nécessaire pour moi et pour ceux qui étaient avec moi. Je vous ai ainsi montré clairement comment vous donner du mal pour aider ceux qui sont en difficulté. Rappelez-vous les paroles du Seigneur Jésus qui a dit « C'est une chance de donner » plus que de recevoir. Donc vraiment, il y a ce charisme qui est le nôtre de toute l'histoire, en tant particulièrement qu'homme, mais bien sûr femme également, qui est celui du travail, de l'incarnation, de l'engagement, et non pas de vivre de manière éthérée. Et ça, Adam nous l'apprend, cet engagement dans l'espace, dans le temps, dans l'histoire, ce rappel que nous vivons dans l'incarnation.
Voilà, alors bien sûr, ce rappel, l'incarnation peut mener jusqu'à la mort, puisque la fin de Genèse 3 se termine là-dessus, hein, tu termineras poussière. C'est donc bien que l'homme, quelque part, ben, dans ce travail, il va parfois élisser sa peau, hein, parce que à la sueur de ton front, c'est que vraiment c'est laborieux, donc c'est aussi toute son énergie qui passe là-dedans, et il y a des phrases absolument magnifiques, justement, dans les encycliques, et notamment dans Laborem Exercens, sur ce sens du travail, qui est aussi pour l'homme comme une participation à la croix, parce que ben, c'est un labeur qui n'est pas simple, et qui demande de sa part une énergie énorme. Bon, alors bien sûr, encore une fois, ça concerne bien sûr aussi la femme, mais c'est plus particulièrement un charisme masculin.
Avançons dans ces différentes figures, venons-en à Abraham.
Abraham, le père de la foi, alors c'est le premier des patriarches, et c'est avec lui que Dieu conclut la première étape de l'alliance. Nous allons voir que l'alliance est conclue avec trois patriarches. Le premier, c'est Abraham, c'est celui qui fait que la foi va rentrer dans une famille, un clan, et il va obéir à la volonté de Dieu. C'est une des caractéristiques aussi de l'homme, c'est cette capacité à obéir quand il a compris que quelque chose était important et que c'était vraiment un axe fondamental, il obéit.
Il s'engage.
Il s'engage, voilà.
Il dit oui quand Dieu l'interpelle, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. C'est comme un peu en écho avec quitter son père et sa mère de la Genèse. Voilà, c'est celui qui vraiment s'engage, pose des actes, c'est le charisme de la volonté, de l'engagement, du choix.
Voilà, puis c'est aussi la spécificité d'Adam, d'Abraham, pardon. C'est aussi cette capacité à aller dans l'inconnu, à être courageux, à faire des sauts dans des choses qui lui semblent apparemment aberrantes, comme d'aller dans un pays qu'il connaît absolument pas, comme de monter sur la montagne, offrir son fils. Il comprend pas tout ça, mais il y va, il fonce, et puis c'est en avançant tout d'un coup qu'il se met à comprendre et qu'il suit la volonté de Dieu. Donc c'est l'homme courageux, c'est l'homme vraiment de l'obéissance intelligente, si je puis dire.
Voilà, et puis c'est l'homme aussi qui symbolise l'accueil et qui aussi qui accueille les desseins de Dieu et la visite de Dieu dans sa vie, même si elle est surprenante.
Voilà, il a accueilli les fameux trois hôtes du chêne de Mambré, qui étaient en fait trois anges que, bien sûr, toute la tradition a vu comme une
visitation de la Trinité.
Voilà, un signe prophétique annonçant la Trinité, mais c'est magnifique parce qu'il a été tellement accueillant et généreux. Il a fait bosser sa femme d'ailleurs pour préparer tout ce qu'il fallait pour accueillir ses hôtes, mais il l'a fait avec un empressement qui est magnifique et qui est aussi la beauté de l'appel de l'homme.
Mais aussi, il est courageux et même à des moments, il pourrait dire quand il négocie avec Dieu, quand il va à un moment discuter avec Dieu, négocier même.
Voilà, c'est le fameux épisode de Sodome où Dieu annonce qu'il va détruire Sodome et il négocie pour passer de 100 justes à 3. Il n'a pas osé aller jusque 1. C'est vrai que le salut qui passe par une seule personne, c'est le Christ. Donc il s'est arrêté avant, mais il avait bien compris que par une personne juste, on pouvait sauver une ville, on pouvait sauver une humanité. Et donc il est vraiment rentré dans la vocation de Dieu. Il est capable de se tenir en face de Dieu pour justement discuter le bout de gras, si je puis dire, et négocier.
Et à la fois, c'est l'homme de la foi, puisque il ira à l'invitation du Seigneur jusqu'à dire, voilà, je peux même sacrifier mon fils Isaac. Et vraiment, il va suivre le Seigneur jusqu'à, même à des moments, des choses qui peuvent paraître invraisemblables, et puis il va accueillir cette bénédiction, et dans la foi, le Seigneur va le bénir.
Voilà, et c'est l'homme de la bénédiction, c'est l'homme aussi qui nous apprend que la bénédiction du Père va sur ses fils et les fils de ses fils, et donc c'est cette responsabilité aussi de l'homme de bénir ses enfants, de bénir ceux qui l'entourent, et je trouve que c'est très beau d'appeler l'homme à cette grâce de la bénédiction.
Allez, on se retrouve dans un instant.
Thank you.
revoilà pour continuer ce chemin avec les grandes figures des d'hommes de l'Ancien Testament. Maud, nous avons cheminé avec Abraham et maintenant avec Isaac, le deuxième patriarche.
Donc Abraham, père de la foi, père d'une multitude, et son fils donc qui a hérité de la promesse, c'est donc Isaac, le fils bien-aimé qu'il a eu dans sa vieillesse, et qui reçoit l'héritage de la promesse. Alors c'est plutôt l'homme qui est soucieux de se conformer à la loi, qui est fidèle à l'alliance de Dieu, qui est aussi habité par le sens de la justice. Nous le verrons, il y a un certain nombre d'épisodes dans sa vie, on voit qu'il est, on l'appelle aussi Isaac le juste. Et puis, quand il est âgé, il sait très bien que la volonté de Dieu doit, et que le peuple poursuive sa croissance dans la promesse, et que la bénédiction doit se poursuivre. Et donc, il va...
Rappelle-nous un peu justement cet épisode de la rosée.
Voilà, il va prophétiser sur son cadet, quand il lui dit... que Dieu te donne la rosée du ciel. Or, la rosée, on a toujours vu dans l'Église que c'était le signe de la venue de Marie qui allait être recouverte par l'Esprit Saint et qui va la couvrir de son ombre, comme la rosée se dépose sur la terre. L'Esprit Saint se déposera sur Marie, si je puis dire. Et donc, il sent dans sa vieillesse que bien de cette lignée sainte jaillira celui qui viendra porter le salut, et que donc l'Esprit Saint intervient dans cette lignée, dans cette promesse. Donc je trouve que c'est très beau parce que Isaac rentre vraiment dans cette intelligence du projet de Dieu.
Alors, autre grande figure de l'Ancien Testament, troisième patriarche, Jacob, le père des 12 tribus d'Israël.
Voilà, alors c'est Jacob qui fait passer, je dirais, le peuple de Dieu au stade d'un vrai peuple, hein, puisque jusqu'à présent c'était une famille, un clan, une tribu. Maintenant, ça devient 12 tribus. Pourquoi 12 tribus ? Parce que Jacob a eu donc deux femmes, dont on a déjà parlé, Rachel et Léa. Et de ces deux femmes vont naître 12 fils. On ne comptait pas les filles à l'époque, donc ils ont dû avoir beaucoup plus d'enfants. Mais en tout cas, il y a donc 12 tribus qui vont jaillir, si je puis dire, de son sein. Et on connaît aussi surtout, Alex, l'épisode de l'échelle de Jacob.
Oui, et puis avec justement l'importance de ce combat avec l'ange. De Jacob avec l'ange qui est comme le symbole aussi du combat spirituel que nous avons chacun à mener. Et donc cette figure de Jacob nous montre qu'effectivement le travail, l'accueil de la vie spirituelle, de la vie du Seigneur, du salut du Christ, et se fait dans le combat.
Bien sûr, on peut pas détailler cet épisode qui est beaucoup trop riche en sens, mais ce qu'on peut juste retenir, c'est que il a eu un songe. Donc d'ailleurs, on va voir que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est souvent les hommes qui ont des songes. C'est une façon assez privilégiée de Dieu de s'adresser à l'homme. Et pendant son sommeil, c'est-à-dire pendant qu'il est disponible, puisque le reste du temps il doit être peut-être pas très à l'écoute, au moins quand il dort, Dieu arrive à lui parler. Et donc, ils reçoivent des songes. Et Jacob a ce fameux songe de l'échelle qui relie la terre et le ciel, où il comprend que la miséricorde de Dieu va faire en sorte que Dieu descendra pour que l'homme puisse monter. Hein. On voit vraiment en préfigure cette magnifique phrase des pères de l'Église qui disent « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Eh bien voilà, déjà Jacob l'avait un peu compris par cette échelle qu'il a vue dresser entre la terre et le ciel. Et puis il a été blessé effectivement dans son combat avec l'ange, qui est donc ce côté aussi, je dirais, viril de la découverte de Dieu, qui fait que par moment, ça blesse le cœur, et que par moment, on est obligé de reconnaître sa fragilité par rapport à celui qui est tout puissant et qui est Dieu, quoi.
Et puis cette passion aussi à la fois du combat spirituel et de l'aspiration vers Dieu, quand il va dire « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve ». Voilà. Et donc cette espèce de combat, de zèle, on retrouve des accents pauliniens, si on peut dire, chez Jacob. Et puis Jacob aussi, ce qui est aussi un homme profondément amoureux de Rachel. On souhaite à toutes les femmes d'avoir des maris aussi amoureux que Jacob l'était de Rachel.
Et oui, il a quand même donné 14 années de sa vie de labeur chez son oncle, chez son beau-père, pour pouvoir avoir justement celle qu'il aimait. Donc ça veut dire que vraiment, quand un homme aime une femme, il est
profondément
presque prêt à tout.
Voilà, voilà. Et puis, avançons avec Joseph. Joseph, alors... qui est le fils bien-aimé d'Israël.
Voilà, le fils...
Le cadet des 12 frères, vous savez, avec tout cet épisode où les 11 frères ont voulu le vendre à une caravane, etc.
Voilà, les 10 frères, parce qu'il en reste un, le petit Benjamin, qui est resté justement auprès de son père. Mais Joseph, lui, est une figure vraiment du Christ, puisqu'il a été livré pour finalement sauver le peuple. Donc, livré en esclavage à l'occasion de cette caravane qui passait. Et puis finalement, sa sagesse a fait qu'il a été responsable progressivement, intendant du pharaon. Et c'était un homme qui avait aussi des songes et qui était capable de les interpréter. Donc il interprétait les songes du pharaon, il interprétait cette angoisse existentielle. Il était capable de lire les signes des temps. Ça, je pense que c'est aussi une caractéristique de l'homme. L'homme en Dieu, dans sa masculinité, est capable de discerner ce qu'il se passe, d'avoir l'intelligence au milieu d'un...
La vision, voilà. La cohérence des dessins, alors qu'on parlait de l'aspect plutôt prophétique au niveau féminin. Voilà, là encore, hein, c'est pas des cases, on met pas, c'est des choses qui ne sont pas étanches. On est en train de toujours de décrire, d'essayer de lire un peu les charismes masculins et féminins. Et puis Joseph aussi, c'est à cette puissance par amour, par compréhension des desseins du Seigneur, du pardon, la puissance du pardon.
Ah oui, c'est quand même extraordinaire, parce que son pardon est tellement plus fort que toutes ces haines qui ont fait qu'il a été arraché à son peuple, hein, que ça, il a été donné pour mort.
Il a été trahi, et
il s'est retrouvé victime vraiment d'une aventure dont il n'est absolument pas maître, et il n'a aucune rancœur envers ses frères. Par contre, c'est aussi, même si c'est un homme du pardon, c'est quand même un homme pédagogue. Il éduque, c'est-à-dire que il va pardonner à ses frères, il leur pardonne, mais il va quand même leur mettre un peu le nez dans leur
dans leur
passé, si je puis dire, pour que les frères s'amendent et puis qu'ils reconnaissent que voilà, il donne pas son pardon non plus, même si, je veux dire, il a pardonné à ses frères, il attend aussi quand même une espèce de reconnaissance de la justice de la situation, hein, qu'il soit capable de s'amender devant lui.
Et puis il lit vraiment les desseins de Dieu au travers du mal qu'il s'est passé, parce que c'est un mal de l'avoir trahi, mais à un moment, il fait la lecture que le Seigneur peut bénir au travers d'événements qui ont été des événements très malheureux, puisqu'il va leur dire, quand il raconte toutes ces histoires et que les frères se reconnaissent, il pleura aux paroles que lui adressaient ses frères. « Ne craignez point, vais-je me substituer à Dieu donc pour vous juger ?» Le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver la vie d'un peuple nombreux. Puisque, justement, toutes les tribus de Jacob vont venir, en Égypte pour être sauvées de la famine.
Voilà, et donc grâce à Joseph, finalement, le peuple d'Israël a été à nouveau sauvé. Et c'est très beau de voir ça, justement, parce que il est vraiment la figure du Christ. Il y a cette fameuse épisode de la tunique qui a été rapportée au père, tunique pleine de sang. Évidemment, la tunique, ben, après, elle va avoir un sens très important, et on va retrouver la tunique du Christ qui a été justement tirée au sort pour ne pas être déchirée. Et cette tunique est le signe aussi de la consécration, puisque après, les prêtres portent aussi une aube qui est le signe aussi de cette tunique. Et ben Jacob est à la hauteur de cet appel, et il sait discerner par quel chemin le Seigneur sauve son peuple.
Voilà, en tout cas, nous espérons vraiment que vous avez été éclairés par ces différentes figures charismatiques de ces grands hommes de l'Ancienne Alliance, et que ça puisse vraiment nourrir, éclairer votre propre vie. On pense particulièrement, bien sûr, aux hommes. Et en finissant cette émission, on demande vraiment à l'Esprit du Seigneur de venir particulièrement bénir les hommes, bénir tous les maris qui nous écoutent, et que l'Esprit du Seigneur nous conduise, vous conduise, avec sa grâce et sa lumière. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.